Bonsoir. Clôture la semaine dernière à Bonn en Allemagne de la 23e conférence des Nations Unies sur le climat. Au cours de ces assises, la RDC a souhaité que des mécanismes justes et équitables de compensation puissent être mis en œuvre à la dimension de ses efforts. Cela afin de lui permettre de renforcer davantage son action climatique, notamment en ce qui concerne la réduction des émissions dues à la déforestation et dégradation des forêts. Quelle analyse faire de la proposition de la RDC? C'est notre thème de ce soir. Et pour en parler, je reçois Monsieur Tosim Panupanu. Bonsoir.
Bonsoir Alain.
Vous êtes négociateur principal de la RDC pour la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique et également membre du conseil d'administration du Fonds vert pour le climat. Victor Nzuzi, bonsoir.
Bonsoir, je vous écoute. Bonsoir.
Merci.
Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Capi.
Merci bien. Vous êtes coordonnateur de l'ONG Nouvelle Alternative pour le Développement. Lui, il nous rejoint dans un tout petit moment. C'est François Nzekouye. Il est député national et rapporteur de la Commission Environnement, Ressources Naturelles et Tourisme à l'Assemblée Nationale. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Fin vendredi dernier à Bonn en Allemagne de la 23e conférence sur le climat, les 196 pays engagés à la convention cadre de l'ONU sur les changements climatiques ont dressé une feuille de route pour la mise en œuvre de l'accord de Paris l'année prochaine. Suivons ce reportage de Nounongoy rendu par Freddy Loufloabo.
La COP 23 appartient désormais au passé. Les chefs de délégation de différents pays ont exprimé leurs besoins et leurs ambitions pour la mise en œuvre de l'accord de Paris l'année prochaine. La RDC affiche sa volonté de s'engager sur la trajectoire collective devant déboucher sur un monde sobre en carbone. Kinshasa souhaite par ailleurs que des mécanismes justes et équitables de compensation puissent être mis en œuvre à la dimension de ses efforts. Question de lui permettre de renforcer davantage son action climatique, notamment en ce qui concerne la réduction des émissions dues à la déforestation et dégradation des forêts RED+, ainsi que la protection des réserves de la tourbière. La RDC a fait savoir à l'opinion nationale et internationale que la RED+ est prête à être mise en œuvre. Et les pays des forêts tropicales humides font de leur mieux pour respecter les directives de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques afin de produire des résultats crédibles. Les délégués des différents pays se sont fixés rendez-vous à la COP 24 prévue en Pologne l'année prochaine.
Merci Freddy Loufloabo. Tosim Panupanu, vous êtes négociateur principal de la RDC pour la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique et aussi membre du conseil d'administration du Fonds vert pour le climat. Pour commencer, quels étaient les enjeux de la COP 23?
Écoutez, la COP 23 a été appelée comme étant une COP de transition, une COP technique. Simplement parce que l'année dernière à Marrakech, lors de la COP 22, les parties s'étaient donné 2 années pour pouvoir finaliser les règles de mise en œuvre de l'accord de Paris. Donc, la COP qui est perçue comme étant une COP de tous les enjeux, c'est la COP 24 l'année prochaine à Katowice en Pologne. Mais il était important pour nous quand même, à Bonn, de pouvoir enregistrer le plus d'avancées possible, de telle sorte que l'année prochaine ne soit pas une année de tous les dangers, mais que ce soit une année où nous ayons la clarté sur quelles pourraient être les avancées que nous pourrions réaliser. Il y avait certains enjeux importants quand même pour nous. Il s'agissait par exemple de voir comment est-ce que le fonds d'adaptation, qui est un fonds qui dépend du protocole de Kyoto, pourrait être mis au service de l'accord de Paris, puisque le protocole de Kyoto est tout doucement en train d'aller vers sa fin. Il y avait également des enjeux par rapport à la clarté que devraient nous donner les pays développés par rapport au financement qu'ils mettent sur la table, de telle sorte que nous puissions avoir la certitude que d'ici 2020, 100 milliards de dollars seront mobilisés. De telle sorte que ce point fixe 2020, 100 milliards de dollars, puisse aider les pays développés à avoir plus d'ambition, pouvoir avoir plus d'audace. Simplement que lorsque les pays en développement mobilisent leurs maigres deniers, qu'ils aient la certitude qu'à un moment donné, le financement international prendra le relais. Donc il s'agissait pour nous en tout cas d'avoir un peu de clarté sur les questions financières, de telle sorte que nous puissions également souscrire à faire plus d'efforts en termes de transparence, d'atténuation et en termes de ce qui s'appelle être le bilan global qui est une question en négociation sous l'égide de la Convention climat.
Alors après cette conférence, la RDC a-t-elle vu clair sur ses financements? Il semblerait que la délégation était très représentative avec plus de 300 membres.
Écoutez, j'ai vu effectivement quelques articles de presse qui affirmaient qu'il y avait 340 délégués congolais. Moi, à Bonn, je ne les ai pas vus. À Bonn, je pense qu'il y avait 70-80 délégués. Et il est possible qu'on ait accrédité 300 personnes pour les permettre sans doute d'avoir les visas afin d'aller en Allemagne. Mais à Bonn, il n'y avait pas 300 personnes. Et je crois que, en fait, il faut féliciter le fait que la RDC soit un gouvernement qui s'inscrive dans une démarche de transparence. Puisque certains gouvernements n'accréditent que les fonctionnaires, nous, au niveau de la délégation congolaise, nous avons accrédité les fonctionnaires, qui sont les experts, négociateurs, les membres de la société civile, tels que les animateurs des ONG, tels que les professeurs d'université, les représentants de différentes institutions, le Conseil économique et social était représenté, les honorables députés et sénateurs. Il y avait en tout cas une forte délégation, effectivement, de 70 à 80 personnes qui représentaient tous les pans de la vie nationale, simplement parce que pour nous, il faut de la transparence. Il faut que n'importe lequel des Congolais, notamment un député national qui représente sa base, puisse entrer dans une salle et s'assurer que les négociateurs congolais sont véritablement en train de défendre ses intérêts. Et donc c'est pour ça que la délégation était assez importante, mais les 340 personnes dont font état les différents articles de presse, je ne les ai pas vus à Bonn.
Alors COP 21, c'était selon les analystes la COP de tous les enjeux à Paris, des grandes décisions ont été prises. COP 22, 23 aujourd'hui, quelles sont les retombées dont la RDC a bénéficié à l'issue de toutes ces conférences?
Déjà, donc comme j'ai dit, c'était une COP où nous devions continuer à négocier les règles de mise en œuvre de l'accord de Paris. Il est important d'être à la table des négociations. La politique de la chaise vise ne paye pas. Donc il est important que l'on soit là. De telle sorte que nous assurions que les règles qui sont en train d'être négociées et qui feront autorité demain soient des règles qui ne défavorisent pas la RDC. Alors, l'accord de Paris est un accord qui vise à limiter la hausse de la température globale à 2 degrés d'ici la fin du siècle par rapport à l'ère pré-industrielle. Aujourd'hui, lorsqu'on prend les contributions des différents États et qu'on les accumule, malheureusement, nous allons vers une hausse de température de 3 degrés à l'échelle globale. Ce qui se traduit par un ressenti sur le continent africain d'environ 4,5 degrés. Donc il est important que l'on puisse rehausser le niveau d'ambition collective de telle sorte que nous puissions limiter cette hausse de température globale. Il faut bien comprendre que l'accord de Paris, qui est déjà entré en vigueur l'année dernière, ne sera mis en application véritablement qu'à partir de 2020. Or, avant 2020, les pays développés, qui sont essentiellement responsables de ce problème du climat, ont une obligation de réduire leurs émissions dans le cadre de la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto. Or, nous nous rendons compte que certains pays développés, malheureusement, ne respectent pas cet engagement et cela n'est pas propice à renforcer le niveau de confiance collective qui pourra nous pousser, nous tous, à faire ce saut vertueux vers un développement sobre en carbone à partir de 2020. Donc que les pays développés fassent leur part, de telle sorte qu'à partir de 2020, qu'ensemble nous fassions tous notre part.
Est-ce que la menace des États-Unis de se retirer de l'accord de Paris n'ont pas refroidi pratiquement la COP 23 aussi, Panopano?
Écoutez, je crois que justement, c'est l'ombre de cette élection de M. Trump l'année dernière qui a fait qu'il y avait eu une accélération du processus de ratification de l'accord de Paris. Et donc, quand nous sommes arrivés à la COP 22, l'accord est entré en vigueur parce que plus de 55 pays, représentant 55% des émissions globales, avaient ratifié l'accord. Donc, aujourd'hui, cet accord est en vigueur. Les États-Unis, qui sont signataires, sont liés par cet accord pendant les 4 années qui suivent. C'est-à-dire qu'un pays qui décide de renoncer à l'accord ne peut le faire que 3 ans après son entrée en vigueur. Et après avoir envoyé la notification, ce retrait effectif ne se fera qu'une année plus tard. Donc les États-Unis demeurent dans l'accord pendant les 4 années à venir. Alors il faut bien comprendre que les États-Unis, dans le cadre de l'accord de Paris, avaient, comme la RDC, soumis une contribution volontaire. Ce n'était pas obligatoire. Les États-Unis avaient inscrit en annexe de l'accord des actions que les États-Unis vont faire de toute façon. Donc il s'agissait de réduire leurs émissions de 26 à 28% entre 2005 et 2025. et c'était sur la base de politiques nationales. L'accord de Paris n'a posé rien aux États-Unis.
Merci.
Donc ce retrait unilatéral, en fait, est une posture politique pour pouvoir satisfaire à l'électorat national de M. Trump.
Merci. François Sécuyer, vous êtes député national et rapporteur de la Commission Environnement, Ressources naturelles et Tourisme à l'Assemblée nationale. Pour vous, quels étaient les enjeux de la COP 23?
Il y avait plusieurs enjeux et je dois souligner qu'au-delà de suivre les négociateurs de la RDC qui est à mes côtés et que nous avons si bien suivi, il peut les témoigner, nous avions une rencontre spéciale. À chaque COP, il y a une rencontre parlementaire où les parlementaires de tous les pays du monde, sous la houlette de l'Union interparlementaire mondiale, se réunissent, eux, séparément avec la grande organisation de la COP pour réfléchir sur les enjeux de la COP. Et pour nous, nous avions plusieurs enjeux. Le premier enjeu, c'était bien évidemment l'enjeu des financements, des mesures d'adaptation que nous avons suggérées en contrepartie des mesures d'atténuation que nous avons décidé de prendre. Et Tosi va m'appuyer là-dessus que les mesures que nous avons prises en cette matière étaient sous condition. Nous ne pourrons pas mettre en œuvre les mesures d'atténuation, ça veut dire chez nous réduction 17% de nos émissions, si nous n'avons pas des moyens compensatoires équitables. Et donc cette question a été la première des questions fondamentales sur laquelle nous avons débattu. Et votre représentant ici présent a pris parole sur cette question de manière très claire. La deuxième préoccupation pour nous, c'était, qui est conséquente à la question des financements, c'est l'équilibre. Si nous devons tous protéger l'humanité contre le réchauffement climatique et que nous devons prendre des mesures d'atténuation et d'adaptation, nous devons tenir compte des niveaux d'évolution de chaque pays. Aujourd'hui, les Européens vous disent que nous devons arrêter avec les énergies fossiles. Ça veut dire, en ce qui nous concerne de manière très claire, que nous devons abandonner l'exploitation du pétrole parce que d'ici 2040, on ne devrait plus utiliser les énergies fossiles dans le monde. Mais si nous hypothéquons nos richesses du sous-sol, dont le pétrole aujourd'hui, que deviendrait la RDC de demain et comment peut-on justifier à nos descendants, à nos fils et nos petits-fils, que nous ayons eu autant de pétrole et que nous n'avons pas développé la RDC pendant que le Moyen-Orient, la Russie, les États-Unis sont développés grâce à leur pétrole? Comment devons-nous justifier cela face à une Europe qui a pollué l'humanité avec le charbon parce qu'il en avait besoin pour son développement et nous devons mettre en jachère nos ressources pétrolières par rapport à cela? Comment pouvons-nous dire à nos générations futures que nous avons conservé nos forêts parce que c'est une ressource qui peut nous permettre de nous développer, parce que nous estimons que cela est bon pour l'équilibre de l'humanité, et en contrepartie, les populations qui vivent des ressources forestières sont dans la pauvreté et que les autres en Europe se développent.
Mais honorable François Nzekouye, comment vous justifiez le tâtonnement de la RDC pour ratifier l'accord de Paris? Ça s'est fait presque en catastrophe avant l'ouverture de cette COP 23.
Non, nous n'avons jamais tâtonné. Nous avons affirmé très clairement, lors de la réunion des chefs d'État à New York, le chef d'État a affirmé notre volonté de pouvoir ratifier cet accord. L'Assemblée nationale, à plusieurs reprises, a demandé à notre gouvernement, qui avait différents agendas, de pouvoir le faire. Mais il faut comprendre quand même que la ratification d'un tel accord ne se fait pas dans la précipitation. D'autant plus qu'il y a des obligations que nous devons accepter par rapport à cet accord. Je viens de vous dire cette question, par exemple, des forêts. Comment l'Occident est en train de nous dire aujourd'hui que on doit penser aujourd'hui à l'habitat durable, pendant que nous avons des populations qui ne peuvent pas couper de bois pour construire leurs huttes? Ça pose un problème. Comment nous devons considérer aujourd'hui que l'Occident nous dise nous ne pouvons plus utiliser les énergies fossiles parce qu'il y a les énergies renouvelables? Mais les énergies renouvelables sont produites par qui? Aujourd'hui, c'est la Chine et l'Allemagne. Est-ce que nous devons pas accepter cela et nous avons nous-mêmes nos énergies renouvelables qu'on ne veut pas financer, notamment les grands Inga qui est là, qui peut alimenter en électricité toute l'Afrique et produire des énergies vertes pendant que l'Occident nous impose aujourd'hui des panneaux solaires ou l'éolienne. Est-ce que c'est quelque chose d'équitable ou c'est encore une fois un marché des dupes? Voilà notre préoccupation.
Mais qu'est-ce que vous répondez à tous ces analystes et ces observateurs qui ont l'impression que la RDC participe à ce genre de conférences, souvent en position de faiblesse?
Non, nous ne sommes pas en position de faiblesse. Nous sommes forts. Et nous disons des choses de manière raisonnable. Nous
en plus, elle n'est pas représentée au plus haut niveau.
Non, nous avons souvent... Qu'est-ce qu'on appelle représentée au plus haut niveau? Vous voulez nécessairement que les chefs d'État se déplacent pour qu'on dise que la RDC a été représentée? Nous avons un ministre qui est en charge de l'environnement. Nous avons un négociateur. Les chefs d'État ne négocient pas. Les négociateurs, c'est aussi pas nous que vous avez l'honneur de recevoir aujourd'hui ici. Il n'y a pas d'eux pour la RDC. Et la position que lui, il prend, engage la Bouadji du Kondo. Il ne faut pas qu'on verse dans les spectaculaires. Je sais qu'il y a des chefs d'État africains qui se sont déplacés, notamment notre voisin Sassou Nguesso qui était là, et d'autres, Alpha Condé, et d'autres que j'ai vus, les Gabonais. Mais ce n'est pas la présence d'un chef d'État qui détermine le poids ou les engagements que nous allons prendre vis-à-vis d'un pays ou un autre. Donc nous disons, si l'Occident veut que la RDC respecte ses engagements conditionnés, il faut qu'en contrepartie, il y ait des actions claires. Et nous l'avons dit, première action, soutenir les barrages d'Inga. Deuxième action, soutenir contre les attaques que nous sommes en train de subir aujourd'hui les eaux du bassin du Congo, parce que nous avons des menaces aujourd'hui venant du Tchad qui veut qu'on puisse exporter l'eau de Lubangui vers les bassins du lac Tchad. Et cela peut compromettre la relation du Grand Inga.
Merci.
C'est aussi, bien évidemment, et pour terminer cela, que l'on puisse financer une agriculture durable en République du Congo pour mettre à ce que l'opération continue à se nourrir. Merci. Dans ces pays.
Merci, honorable François Nzekouye. Victor Nzouzi, vous êtes coordonnateur de l'ONG Nouvelle Alternative pour le Développement. Pour vous, quels étaient les enjeux de la COP 23? Vous avez suivi le négociateur Tosin Panumpanu et l'honorable François Nzekouye.
Ouais, je pense que les enjeux tels qu'ils en ont parlé, c'était d'abord ce problème de financement, ça c'est clair. Mais nous, à notre niveau aussi, et nous sommes au niveau de la base, nous croyons que pour des pays comme le Congo, il faudrait vraiment qu'on accorde beaucoup d'importance à l'agriculture et accorder beaucoup d'importance aussi aux énergies. Parce que nous ne pouvons rien faire aujourd'hui. J'ai entendu parler l'honorable Nzekouye comme Panupanu, les négociateurs, parler de l'atténuation. Mais aujourd'hui, quand nous voyons tout autour, à part la forêt équatoriale, tout autour des grandes villes, les petits bosquets que nous avons disparaissent. Et quand nous voyons les grandes villes aujourd'hui, ce sont les érosions. Tout ça, c'est dû au climat. Et par rapport à l'agriculture, ça, c'est vraiment très, très grave. Donc, c'est vrai, le financement, mais aussi, nous devons nous regarder en face. Parce que réellement, même si cet argent arrivait, moi je me demande si ça sera bien géré. Tout à l'heure, le négociateur, lorsque vous lui avez posé la question sur le nombre de participants, il a parlé de 80 qu'il a vu à peu près, peut-être, mais on parle de 340. Mais il y avait une forte délégation. Si déjà, en cette matière-là, on ne sait même pas donner les chiffres, on n'est pas transparent, je me demande... Comment est-ce qu'on sera transparent quand le gros morceau va venir? Donc les enjeux sont ceux-là. Mais aussi pour l'Allemagne, parce que j'ai été en Allemagne trois semaines avant, au niveau de société civile, on a préparé certains documents. Mais l'Allemagne qui recevait cette conférence, enfin au nom de Fiji, mais cette Allemagne-là qui continue à utiliser le charbon. C'est pas normal. Donc voilà un peu des gens qui veulent nous donner des leçons. C'est pourquoi nous devons prendre conscience. Ce sont des discours. Tout ce qu'il y a là sont des discours. Un Trump qui voulait donner 3 milliards de dollars, maintenant il désiste, eh bien, on ne sait pas. Ils ont donné 1 milliard. Est-ce que les 2 milliards viendront encore? On ne sait pas. Donc nous devons prendre conscience. Vraiment, nous devons prendre conscience. Et par rapport à la position de faiblesse, mais c'est parce que nous allons toujours d'une manière dispersée. Et même notre base, moi je me demande... Est-ce que ceux-là qui doivent protéger la forêt, ceux qui vivent dans la forêt, dans cette tourbière-là dont on parle, est-ce qu'ils connaissent ces enjeux tels que Panupanu, le négociateur, est en train d'en parler là. Tant que la base n'aura pas réellement à s'exprimer comme il faut, moi je crois que nous sommes en train de tourner autour du pot.
Alors, vous dénoncez une démarche contradictoire dans l'attitude des pays développés qui demandent aux pays pauvres de faire plus. Est-ce que vous pensez vraiment qu'un jour la RDC pourra tirer profit de ses ressources forestières?
Oui, la RDC peut tirer profit de ses ressources forestières à une seule condition. Sincèrement, nous devons le dire, nous devons nous regarder sans froid aux yeux. Il faut qu'on arrive à bien gérer le pays. Hein. C'est tel que nous gérons aujourd'hui, sincèrement, on n'arrivera jamais. Jamais, jamais on n'arrivera. Donc nous devons changer nos modes de gestion, nous devons apprendre à être très très sérieux, à être transparent, et à ce moment-là, on peut s'imposer. Parce que ceux-là à qui nous allons demander, ils savent déjà comment nous gérons nos petites ressources. Donc moi je crois que ça va être très très difficile si nous ne changeons pas, si nous ne prenons pas conscience. La RDC peut vraiment dire un mot et faire taire peut-être les autres, mais aujourd'hui vous voyez, c'est le Congo-Brazzaville, c'est le Gabon qui parle très souvent, c'est le Cameroun, alors que la forêt la plus importante c'est au Congo, plus de 40% de cette forêt tropicale africaine. Donc voilà, nous devons prendre conscience et là on pourra nous prendre au sérieux. Mais tel que nous évoluons, sincèrement, je crois que nous sommes en train de rêver, quoi.
L'honorable Nzekoui l'a dit, la RDC a conditionné sa réduction des émissions de gaz, notamment elle demande que soit soutenu le barrage d'Inga, qu'elle soit soutenue dans cette lutte par rapport aux eaux du bassin du Congo, qu'on souhaiterait qu'elles aillent vers le bassin du Tchad. Est-ce que vous pensez qu'actuellement la RDC a les moyens de faire face à toutes ces fortes pressions?
Non, la RDC n'a pas ces moyens. Malheureusement, il faut le dire. Parce que là, il faudrait qu'on arrive à revoir comme l'honorable est là, il faudrait qu'on voie cette convention internationale sur les eaux transfrontalières et quels sont les engagements que nous avions pris. Parce que si aujourd'hui nous ne voulons pas, ben écoute, ils vont négocier avec la République centrafricaine. Donc on doit faire beaucoup d'attention, ce sont des eaux transfrontalières, mais il faudrait que cela soit bien expliqué à la population. Quelle est réellement aujourd'hui notre position par rapport à cela? Aussi Inga, l'honorable Nzekoui a parlé d'Inga, moi je regrette, hein, quand je vois la répartition, l'ancien Premier ministre Matata avait signé un document sur la répartition de l'énergie que devrait produire le barrage d'Inga 3. Mais nous savons que les deux tiers devraient aller... Les deux quarts devraient aller à l'Afrique du Sud, un tiers aux industries extractives du Katanga, et les 100 000 mégawatts qui va rester, ce qui va rester, les 1000 mégawatts qui vont rester, et ça sera pour le Bandundu et Kinshasa, le Bas-Congo. Donc ce n'est pas, même Inga, là, c'est pas d'abord, à travers la répartition, ce n'est pas pour le petit peuple, c'est pas pour nous le paysan. Oui, on parle des petits, des micro-barrages qu'on pourra construire, on veut le voir être construit. Donc moi je crois que nous sommes vraiment en position de faiblesse, et même le barrage d'Ingala, comment voulez-vous que les gens soutiennent ce barrage lorsque on doit investir près de 8 milliards et demi de dollars et qu'on doit payer en supplément 4 milliards de dollars d'intérêt.
Merci.
Donc moi je crois que c'est déjà un problème.
Merci Tosim Panumpanou, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu.
Gilbert Valioudou de Mikima de Bukavu aussi de Kivu. Mal réclamer son droit, on les perd, c'est vrai. Et ce n'est pas la RDC qui devrait réclamer dans ses assises si tout le monde reconnaît son poids dans ce domaine. C'est pourquoi, au lieu de réclamer, c'est plutôt les autres nations qui le négocieraient. Mais hélas, ça prouve à suffisance que la RDC n'a aucune même issue sur ses réserves naturelles. Et c'est pour cette raison que le réclame est à genoux. Certains des grandes forêts du pays sont aujourd'hui un patrimoine mondial, terme très mal compris par nos citoyens moyens. Au cas où cette réclamation ne serait pas prise en compte, adviendrait si la RDC claquait la porte, si la raison du plus fort est toujours la meilleure. Accepterions-nous que la RDC a toujours été mal représentée?
Tosim Panupanu.
Oui, je pense que votre auditeur met le doigt sur des questions importantes et sensibles. Hein. Il y a là, en fait, je pense, la question de la bonne foi. lorsque les gens vont à cette négociation, sont-ils animés de bonne foi? Il est clair que chaque pays, puisqu'il y en a 196 autour de la table, essaie de tirer la couverture de son côté, essaie de voir ses propres intérêts. Et donc la RDC, lorsque nous allons là-bas, nous allons également avec la même approche. Ce que je voudrais dire quand même, c'est que ces richesses naturelles de la RDC se trouvent dans les confins des frontières d'un pays souverain. Donc personne ne viendra prendre nos ressources naturelles sans que nous puissions donner notre accord. Ce fleuve Congo, majestueux, important, trouve sa source dans le cœur de la RDC. Et donc, la Centrafrique ne peut pas décider d'elle-même de l'allocation de ces eaux, qui sont des eaux transfrontalières, certes, mais qui sont des eaux qui viennent de la RDC, pour pouvoir les donner comme ça vers le Tchad. Moi, je pense que Monsieur Victor Nzouzi a beaucoup parlé de transparence. Je tiens à insister sur le fait que la RDC, en tout cas lorsqu'elle va dans cette négociation, s'inscrit dans le sens de cette transparence, puisque la délégation est ouverte. Je veux également dire que le chiffre que j'ai du nombre des délégués est de 82. Mais comme je n'ai pas encore confirmation de ce chiffre-là, je n'ai pas voulu le donner. Donc il n'y a pas d'ambiguïté ou il n'y a pas de volonté de ma part de cacher quoi que ce soit. Alors, lorsqu'il parle de la base, nous, lorsque nous allons à cette négociation, nous allons préparer. Simplement parce que si nous n'allons pas y préparer, nous nous retrouvons dans une situation où nous serons remplis d'émotions, simplement parce que nous n'avons pas créé ce problème du climat qui nous a été imposé. Nous mettons nos émotions de côté et nous entrons dans cette négociation sur des bases objectives qui sont ce que la science nous recommande, qui sont la règle de droit, qui sont les plans, les programmes que nous avons préparés. Et donc la RDC en 2012 a adopté une stratégie cadre pour la réduction des émissions provenant de la déforestation, de la dégradation des forêts, qui vise à stabiliser son couvert forestier d'ici 2030. Et il faut comprendre que si on ne fait rien, nous allons continuer à perdre environ 500 000 hectares de forêt par an. Le taux de déforestation est de 0,34% et entre 1990 et 2010, il a donc résulté à une perte de couvert forestier d'environ 10 millions d'hectares. Il faut faire quelque chose. Et donc la RDC a préparé sa stratégie cadre. La RDC a décliné cette stratégie cadre à travers un plan d'investissement quinquennal estimé à 1 milliard de dollars. Nous avons à cette fin établi un fonds national RED+, dans lequel nous avons déjà reçu une capitalisation initiale de 190 millions de dollars venant du fonds des forêts d'Afrique centrale, soutenu par donc le Royaume de Norvège. Donc nous allons dans cette négociation de manière organisée, de manière préparée, de manière proactive.
Mais Tosi Panupanu, est-ce que ces populations locales dont parle Victor Nzouzi reçoivent un feedback de ces négociations que vous faites en dehors du pays pour leur compte aussi particulièrement?
Il y a effectivement un travail de sensibilisation à faire. Je suis heureux que votre radio qui est suivie dans les quatre coins du pays donc puisse véhiculer ce message, mais a priori, il y a également, lors de l'adoption de tous ces programmes que nous avons, tels que la stratégie nationale RED+, il y a une démarche participative, il y a des consultations nationales très larges, où toutes les couches de la société sont représentées, et où nous tenons compte de ce que la base revendique. Parce que simplement, si nous n'allons pas dans cette démarche-là, lorsqu'il faudra mettre en œuvre cette stratégie, il n'y aura pas d'appropriation au niveau local.
Merci. Merci François Nzekouye. Il y a pour vous cette réaction qui nous vient une fois de plus de Bukavu au Sud Kivu.
Sikiri Chomba de Bukavu au Sud Kivu. S'il faut être sincère, la RDC doit d'abord améliorer sa politique de gestion de sa forêt avant de prétendre quoi que ce soit. Il me semble que de ce côté, il y a encore beaucoup à faire. Mais aussi, dans de telles conférences, la RDC n'a jamais été représentée par les plus hautes personnalités du pays. Ce qui démontre la non-importance de la RDC à ces conférences. À mon avis, tant que la RDC ne sera pas qu'elle occupe une place de choix dans la gestion de l'environnement mondial, de par sa position géographique, il sera difficile pour notre pays de bénéficier d'un financement des bailleurs. Il appartient donc à la RDC de lutter pour qu'elle soit au centre de l'environnement mondial. Loin de là, cette conférence, comme d'autres précédentes, n'apporteront rien à notre pays, pourtant deuxième poumon du forêt mondial.
Honorable Nzekouye, j'ajoute cette réaction de Chris Hacha de Bukavu qui dit « Moi, je me demande quels sont ces mécanismes que la RDC mettra en place pour réduire ses émissions. Au niveau interne, il y a des lois qui protègent les forêts congolaises. Malheureusement, ces lois ne sont pas respectées. Les Congolais, gouvernants et gouvernés, doivent tous d'abord changer de mentalité. »
Bon, je crois que je ne partage pas ce pessimisme de mes frères du Sud Kivu, que je salue du reste et que j'affectionne beaucoup. Non, il faut pas non plus imaginer que la RDC n'est pas représentée au haut niveau. Je sais, par exemple, à la conférence de Paris, le président de l'Assemblée nationale était présent. C'est la deuxième personnalité de la République tout de même. Et donc, mais au-delà de ça, il y avait plusieurs autres ministres qui étaient là, les ministres des Finances, les ministres de l'Environnement. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres personnalités qui étaient là. Il faut pas minimiser les délégations parlementaires, conseil économique et social, et même les institutions de la République. Donc, le fait de ne pas être représenté par les chefs d'État ne signifie pas qu'on ne peut pas bénéficier des financements. Et du reste, je crois que pour les fonds RED, la RDC serait le premier pays à bénéficier de ces fonds-là, par rapport à tous les autres pays qui sont souvent représentés par leurs chefs d'État. Donc, ça ne veut rien dire. Et d'autre part, quand Victor Nzuzi il minimise l'impact des grands Inga en parlant de Inga 3, je dois lui rappeler que Inga 3 ne représente que 4,400 mégawatts, donc 4,4 gigawatts qui doit être produit par Inga 3, mais grand Inga c'est 39 000 mégawatts, donc ça veut dire 39 gigabytes. Et donc pensez au montage financier qui a été fait par rapport à Inga 3 parce que l'Afrique du Sud est demanderesse de ces courants ne signifie pas que toutes les ressources énergétiques provenant de Inga iraient vers l'Afrique du Sud et les populations congolaises n'en bénéficieraient pas. Donc c'est une nuance que je voulais apporter à ce niveau-là. Et la question des eaux transfrontalières, je crois qu'elle est aussi en a si bien parlé. Les eaux transfrontalières, aucun pays ne peut prendre la décision d'en disposer ou de l'aliéner sans l'accord des autres membres. Et donc, c'est une question qui devrait être débattue au niveau de la Comifac pour que nous puissions trouver la solution. Et encore que nous avons déjà levé des options là-dessus. Et le Parlement congolais a levé une option qu'on ne peut pas transférer les eaux du Congo sans que des études d'impact environnemental et social et économique soient faites de manière indépendante et que l'on arrive à la conclusion qu'il n'y aura pas d'impact négatif à RDC. S'il y a une conclusion dans ce sens-là, alors à ce moment-là, on ne pourra pas transférer les eaux. Donc ça veut dire que il faut qu'on soit serein. Nous avons des hauts responsables qui débattent de ces questions-là au niveau international et nous ne sommes pas prêts à aligner nos intérêts.
Honorable Nzekouye, il y a cette préoccupation de Chris Hacha de Bukavu sur ces lois qui protègent les forêts congolaises mais qui ne sont pas respectées.
Non, elles sont respectées aujourd'hui. Qui peut nous dire combien de grumes sont exportés aujourd'hui? On a un moratoire sur cette question. On vient de lever, le ministre de l'Environnement vient de lever partiellement le moratoire pour accorder quelques concessions à une société. Mais pendant combien d'années on n'a pas accordé de droit à des sociétés de couper des grumes dans notre pays? C'est vrai que nous devons faire évoluer la loi. Moi, je viens du Gabon et avant d'aller à la COP, j'ai vu l'expérience gabonaise où on n'accepte pas qu'on puisse exporter des grumes. Il faut les couper en morceaux de madriers, des triplex, fabriquer des meubles pour exporter. Il faut qu'on évolue aussi à ce niveau-là parce que il faut que nos richesses puissent donner de la valeur ajoutée, des emplois à nos compatriotes. C'est une réflexion que nous sommes en train de faire et je vois que je vais initier une amélioration de notre loi sur la gestion forestière. Mais il y a des choses positives. Nous ne devons pas toujours nous auto-flageller et croire qu'en RDC, rien de bon ne se fait. Non. Merci. Nous sommes approchés et félicités au niveau international par rapport aux efforts que nous réalisons dans ce domaine.
Merci. Victor Nzuzi, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
Des solutions se mêlent à Kinshasa. Il faut avouer que les résultats de la COP23 sont décevants du fait que les pays industrialisés n'ont pas manifesté la volonté ferme de fournir les moyens financiers en temps réel. Le mécanisme de compensation qui sont le corollaire du principe de la responsabilité commune mais différenciée sont une fiction et comparables à un slogan. Cependant, la RDC doit définir ses stratégies au lieu de commencer d'attendre toujours les ressources financières de ces pays industrialisés qui sont à la base de la pollution de nos ressources et Et c'est pourquoi nous devons tout prendre en charge pour lutter contre la dégradation de la biodiversité forestière dans le bassin du Congo.
Victor Nzouzi.
Bon, ben, je pense que, je l'avais déjà dit, nous devons prendre conscience, comme il est dit, c'est clair. Mais nous ne devons pas aussi abandonner le combat. Parce qu'au niveau international, moi je pense que ceux qui ont plus pollué, ce sont ceux-là qui organisent toutes ces messes. Donc voilà, nous devons juste, nous, au niveau du réseau international Comité pour l'annulation de la dette illégitime, dont je fais partie, nous parlons aussi de la dette écologique. C'est-à-dire que ceux-là qui ont détruit l'environnement doivent normalement être responsables de leurs actes. Donc voilà pourquoi nous devons être dans ces débats-là. Mais c'est vrai que nous devons, à notre niveau aussi, réellement, lorsque nous parlons des stratégies mises en place, qu'on les sente. Moi, je suis en Banzangongo là. En Banzangongo, vous voyez des dépôts de braises et ça passe Banzangongo, ça passe le parquet, ça passe la police, centre Kinshasa. Mais combien on est en train de détruire? Et Kinshasa, je venais de Kinshasa il y a une semaine, mais dans le quartier Manzalemba, vous attendez l'électricité deux fois par semaine. Mais combien de braises on doit utiliser? Alors, lorsque nous parlons de stratégie que nous mettons en place, moi je ne sais pas, on est en train de rêver. Vraiment, on est en train de rêver. On n'est pas pessimiste, mais je crois que nous devons apprendre à changer, à faire une révolution mentale et changer notre façon de gérer les choses. Mais sinon, c'est clair que ceux-là qui ont pollué, ces grandes puissances-là, doivent payer. Et ça, c'est un fait. Donc, ce n'est pas un cadeau qu'ils nous donnent. Ce n'est pas un cadeau. Nous sommes victimes. Lui, il est à Kinshasa. Le 15, je crois, quand il a plu à Kinshasa, le 16 dernier, il a plu. Vous avez vu tous ces dégâts-là? Et ces dégâts viennent d'où? À part notre responsabilité, parce que sur le plan urbanistique, on ne sait rien. Et ben voilà, vous avez aussi ces dégâts qui viennent de l'atmosphère par la pollution de ces grandes puissances. Et là, je pense que je soutiens ces idées en disant, nous avons des universités, et ben, il faudrait que ces universités soient mises en contribution, par exemple, par rapport à l'urbanisation. Il faut qu'on arrive à urbaniser, faire autrement. Par rapport à l'agriculture, il faudrait réellement que les centres de recherche agronomique travaillent, pas avec l'argent de ces mêmes personnes-là qui nous amènent les OGM et qui nous amènent leurs technologies industrielles.
Victor Nzouzi.
Aujourd'hui, on parle de l'agriculture écologique.
Victor...
Donc, il faudrait aller dans ce sens-là avec des cadres universitaires qui travaillent dans ce sens. Parce que nous avons plus de 70% de la population paysanne ou rurale dans ce pays.
Victor Nzouzi.
Aujourd'hui, le climat continue à frapper ces paysans, ces éleveurs. Mais où est-ce que nous allons devenir comme les Mororo? Vous voyez les Mororo là? Ils sont arrivés à cause de ce climat.
Et Victor Nzouzi. Victor Nzouzi, en parlant de ce financement qui doit venir des pays pollueurs et qui peine à arriver, le président français Macron a déclaré, je cite, les pays africains doivent également se mobiliser parce que les ressources internes existent. Il suffit que l'on s'organise et que l'on voit comment apporter des contributions à partir de mobilisation de ressources en interne. Est-ce que ce ne serait pas une façon pour ces pays développés de lâcher les pays pauvres et moins pollueurs?
Bon, ben écoute, ce langage, nous le connaissons. C'est comme disaient les négociateurs Panopanou, chacun tire la couverture de son côté. Ça, c'est clair, hein? Il a droit de le dire parce qu'ils savent qu'à leur niveau, eux, aujourd'hui, pour réduire ces émissions, ils doivent fermer certaines usines ou réduire leur production. Or, réduire leur production, eux, ils n'en veulent pas. C'est clair. Et donner aussi des moyens ou faire ce transfert de technologies, ça pose toujours des problèmes. Donc, moi, je crois que ça, c'est par rapport à leurs intérêts. Mais nous devons aussi en tirer des leçons. C'est-à-dire que réellement, on doit sortir d'un budget de 5 milliards de dollars. Ça, c'est vraiment... Non, c'est de l'insulte, ça, hein? Un pays... 80 millions d'habitants, 5 milliards de dollars, et dites-moi, quand on a un budget pareil, qu'est-ce qu'on peut mettre, par exemple, dans le fonds d'atténuation, au niveau interne? Quoi?
tout ce qu'on peut mettre.
Merci. Merci Tosi
Panou. Pas de problème.
Tosi Panou Panou, vous en tant que négociateur, est-ce que vous comprenez cette frustration, ce pessimisme affiché par certains compatriotes?
Oui, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit qu'il nous faut laisser les émotions de côté et donc nous engager dans cette négociation sur la base d'éléments objectifs. Et donc nous aujourd'hui nous voyons que la grosse partie de nos émissions de gaz à effet de serre provient de la déforestation. Il faut donc pouvoir identifier les moteurs de cette déforestation et les gérer. Le plus important, c'est l'agriculture itinérante sur broulis. Le deuxième moteur de déforestation, c'est effectivement les besoins énergétiques. Il y a également des problèmes de gouvernance, il y a des problèmes au niveau foncier, il y a des problèmes au niveau de la démographie. Et donc nous, notre stratégie qui a été pensée, qui a été réfléchie, qui a été avalisée par toutes les parties prenantes nationales, vise à pouvoir gérer ces moteurs de la déforestation. Et donc nous avons estimé les besoins sur 5 ans à 1 milliard de dollars et nous sommes en train de mobiliser cet argent. Alors, dans le cadre de l'accord de Paris, notre contribution déterminée au niveau national entre 2020 et 2030 vise à réduire nos émissions de 17%. Nous conditionnons ces 17% de réduction de nos émissions par la coquette somme de 12 milliards de dollars. Nous avons également des besoins en adaptation. Ces besoins sont estimés à 9 milliards de dollars. Puisque, comme M. Victor nous l'a dit, les intempéries créent d'énormes dégâts et il nous faut bâtir des infrastructures qui soient résilientes. Il nous faut pouvoir développer une agriculture qui soit résiliente. Donc, tout ça pour dire que nous, au niveau du ministère de l'Environnement, nous comprenons que cette question du climat est une question transversale et qu'il faut une véritable démarche interministérielle participative pour pouvoir trouver des solutions. Et nous nous y attelons.
Merci. François Nsekouye, en 2017, les émissions de CO2 liées aux énergies fossiles ont pris de l'ascenseur. Faut-il s'inquiéter ou faut-il continuer à espérer?
Les deux. Il faut s'inquiéter et agir, pas espérer. Il n'y a pas des rêves à se faire. Il faut agir pour que ces émissions diminuent. Mais ces émissions doivent diminuer d'abord dans les pays occidentaux. Parce qu'en fait, Tosi ne l'a pas si bien dit, l'Afrique ne représente que 4% en termes d'émissions. Et ces 4%, c'est l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud. Nous, on n'émet presque pas. Donc, il faut que nous puissions, encore une fois, renforcer notre position pour leur dire que nous ne céderons pas. Mais bien évidemment, les obligations telles que nous les avons définies entrent en vigueur à 2020. Mais il y a des étapes. Déjà d'ici le 12 décembre 2017, il y a une réunion à Paris sur les questions de financement pour qu'on arrive de plus en plus à déterminer qui apporte quoi dans ces paniers pour arriver aux 100 milliards. Même si du reste, les 100 milliards restent insuffisants. Parce que Tosi vient de vous dire ici que pour nos besoins d'atténuation, nous avons besoin de 12 milliards. Pour nos besoins d'adaptation, nous avons besoin de 9 milliards. Mais nous ne sommes pas seuls dans les basses fentes des 100 milliards. Les besoins d'Afrique en matière d'adaptation et d'atténuation sont de 1200 milliards de dollars.
Et donc, en guise de conclusion, honorable Nsekouye, pour tous ces Congolais qui vous suivent en ce moment, qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les apaiser?
Non, nous devons leur dire qu'ils ne doivent pas désespérer. Ils ont des bons négociateurs, tant au niveau du gouvernement, du Parlement que de la société civile. Et que nous allons arriver à donner à la RDC d'ici 2020 des moyens pour nous permettre d'atténuer et d'adapter. Merci. Mais il faut également se dire que nous devons nous-mêmes nous prendre en charge parce que les problèmes climatiques ne sont pas que les problèmes des autres, ce sont aussi nos problèmes.
Victor Nzouzi, en guise de conclusion, faut-il espérer ou faut-il continuer à douter un peu?
Oui, il faut espérer, ça c'est vraiment le mot, il faut espérer. Mais ce qui est vrai que cet espoir-là doit être conditionné par une prise de conscience, une bonne gestion. Changer, vraiment faire une révolution mentale, parce que tel qu'on gère, moi je crois que ça va être très très difficile. Et ne croyez pas que l'Europe, l'Occident va facilement transférer les technologies ou facilement financer.
Merci. Merci Tosi Panou Panou. Quelle est votre conclusion?
Écoutez, moi je crois que ce que nous faisons ici est important. Il faut insuffler une espèce de civisme environnemental, climatique, de telle sorte que toutes les parties prenantes nationales se sentent impliquées et que nous puissions ensemble changer nos modes de production, nos modes de consommation pour nous inscrire dans un développement plus sobre en carbone et plus résilient face aux effets néfastes du changement climatique.
Merci messieurs, cette émission est terminée. Réalisation Guy Maté, assisté de Donna Madimba, mise en onde Mimi Kindou, supervision Pélé Kipela Mondo, présentation et coordination Alain Rongmouchige. Bonne suite au programme sur la radio de la paix. Au revoir.